Bonsoir Jacques Rancière. Donc tout d'abord, nous voulions vous remercier à Bordeaux d'avoir accepté de passer cette journée avec nous, d'avoir fait ce trajet depuis ce matin pour présenter d'abord aux étudiants de Bordeaux et de Camille Julien votre travail et puis ici dans les salons MOLA ce qu'on peut appeler désormais votre œuvre sans que vous ayez à en rougir. Voilà, lorsque nous avons réfléchi avec Pierre Coutel à la formule un petit peu de cette soirée, c'est tout de suite la méthode de l'égalité qui nous est venue à l'esprit, dans la mesure où il s'agit d'un regard rétrospectif sur votre travail, depuis finalement ce qui aurait été le moment de départ, c'est-à-dire la lecture du Capital dans les conditions que l'on sait et avec la suite que l'on connaît, jusqu'à vos derniers travaux aujourd'hui. Et donc, je voudrais reprendre avec vous ces débuts, même si nous savons tous que vous n'aimez pas ni les scènes primitives, ni les mythes de l'origine. Mais il me semble quand même que ce qui est frappant et constant dans votre parcours, c'est que ce qui s'est élaboré dans le cadre d'une réflexion, non pas de groupe, mais d'une réflexion d'une génération, à partir du moment où, finalement, quelles que soient les disciplines d'origine, il y a une interrogation sur la démocratisation des savoirs qui se joue à différents niveaux. Ce qui s'est mis en place à ce moment-là, c'est quelque chose de totalement durable, c'est-à-dire que la démocratisation des savoirs n'est pas chez vous un thème qui s'ajouterait ou qui serait historiquement lié aux événements des années 70, mais est-ce qui fait la dignité de toute interrogation, non seulement lorsqu'elle se joue dans le cadre de la pensée critique, et de la pensée critique en littérature en particulier, mais plus largement, qu'il n'y a de critique ou de pensée critique qu'à partir du moment où elle pose la question de la démocratisation des savoirs, en tentant d'élucider non seulement ces figures qui sont sous-jacentes à cette démocratisation des savoirs, qui représentent ce peuple et qui sont ces figures. On a vu, à travers cette génération sur laquelle vous revenez dans la méthode de l'égalité, qu'il y a évidemment des approches diverses, qu'il y a l'ouvrier, bien sûr, pour lequel vous avez beaucoup travaillé, que pour d'autres, c'est la femme, pour d'autres, enfin, et au singulier, j'allais dire, le fou ou le criminel, enfin, toutes ces figures en marche, mais que ces différents visages du peuple ou des laissés pour compte, pour vous, ne sont pas simplement des objets d'étude à part, mais font de la dignité de la démarche, et qu'il n'y a de savoir véritable que celui qui joue le jeu de la démocratisation et de... Voilà, de cette rencontre avec ceux pour qui le savoir a un rôle, ou peut avoir un rôle, c'est-à-dire un rôle émancipateur.
Oui, c'est un programme. Bon, si on reprend un petit peu les choses dans leur histoire, bon, disons que j'ai eu la chance d'avoir 20 ou 25 ans à une époque où beaucoup de choses se bougeaient dans le domaine du savoir. Bon, c'était l'époque d'Althusser, l'époque de Foucault, l'époque de Lévi-Strauss, l'époque de ce qu'on a appelé le structuralisme. Donc l'époque où les frontières bougeaient, la philosophie prenait comme ça des formes un peu inhabituelles, et en particulier bien sûr avec Foucault, lorsque la philosophie allait se mêler des hospices, des hôpitaux, des prisons, etc. Et par conséquent, d'une certaine façon, la philosophie sortait des salles de classe, et elle le sortait en même temps dans une époque, effectivement, où on sait qu'il y a eu quand même un peu toute cette agitation démocratique au niveau, non seulement en France, mais un petit peu au niveau mondial. Donc oui, voilà, j'ai eu la chance un peu d'être jeune à ce moment-là, où il y avait comme une espèce de bouleversement un petit peu dans le dispositif des savoirs qui correspondait à une espèce d'effervescence qui à l'époque pensait être révolutionnaire dans la société. Et voilà, alors à partir de là, il y a des destins divers. On peut considérer simplement que oui, il y a comme une espèce d'ouverture du domaine de la pensée est plus obligée de poser la question de la pensée elle-même, quoi. N'est plus obligée de non plus simplement de se trouver des nouveaux objets de pensée, mais ce qui pour moi a été été peut-être déterminant dans mon trajet, lorsque, bon, un petit peu à l'image de ce que Foucault avait pu faire, pour les prisonniers, les fous, etc. Je me suis un petit peu lancé dans le travail sur l'archive ouvrière. Ce qui a été très important, c'est très très rapidement, en quelque sorte, une conversion. Si on ouvre des archives, on va toujours chercher un peu comme des objets de savoir, comme des objets de savoir pour sa pensée. Et puis alors, tout d'un coup, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis tombé non pas sur des objets, mais on peut le dire, sur des sujets, quoi. C'est-à-dire
sur des sujets et sur des sujets que vous avez d'emblée trouvé intelligents ou dont vous avez d'emblée parié qu'ils étaient non seulement intelligents, mais qu'ils avaient une aptitude, une capacité à investir des savoirs authentiques. Et ça, c'est peut-être ce qui fait la particularité de votre approche.
Oui, donc moi j'étais parti, donc c'était les années 72-73, une espèce de travail sur l'archive ouvrière, au sens, voir ce que ces gens avaient, ce que ces gens avaient pensé, ce que ces gens avaient dit. Et au départ, on a toujours effectivement cette espèce de réflexe qu'on peut dire inégalitaire, à savoir que, ces gens-là sont là pour vous fournir en quelque sorte des renseignements. Et puis, le savant social normal, il pioche ces renseignements, puis après ça, il les traite, quoi. Et puis, très très rapidement, je suis tombé sur le fait que ces gens n'étaient pas là pour me fournir des renseignements, mais que je tombais sur des processus en quelque sorte de pensée, de création, de dialogue qu'ils avaient entre eux, donc ces ouvriers des années 1830-1840 en France, dont j'avais les archives entre les mains. Et voilà, il y a eu comme ça, comme une espèce de processus. Au départ, on tombe sur quelques lettres envoyées par un ouvrier menuisier à un ouvrier maçon. Quoi. Et puis, à partir de là, je me suis mis à inventer la philosophie, la philosophie de l'ouvrier, du menuisier en question. Quoi. Et puis, après ça, j'ouvre en quelque sorte ces archives, et d'une certaine façon, la philosophie que je lui avais inventée, c'était bien la sienne. Quoi. Donc, c'est comme ça, un peu, quelquefois, on a comme des espèces de bonheur, si on veut, mais qui en même temps sont une provocation. C'est-à-dire que, on se rend compte que d'une certaine façon, ça se passait dans les années 70, donc après 68, les grands mots d'ordre 68, du genre rien ne sera plus comme avant, l'histoire d'une espèce de révolution qui est en même temps intellectuelle, affective, etc. Et j'avais affaire à quelque chose qui finalement, chez des gens qui avaient eu 20 ans en 1830, qui n'avaient pas fait, donc au moment de la révolution de 1830, et qui eux n'avaient pas fait d'études ni de philosophie, ni de quoi que ce soit, en même temps, trouver un petit peu comme les mêmes attitudes, les mêmes idées, que quelque chose était arrivé qui changeait véritablement un petit peu, qui devait changer un peu toute leur vie, quoi, et que par conséquent il leur fallait être comme à la hauteur de cet événement qui leur était arrivé, commencer à changer un petit peu tout leur mode de vie, leur mode de pensée, et donc je me trouvais devant quelque chose qui était une espèce d'effervescence intellectuelle, qui avait toujours été comme recouverte, parce que ces archives-là, personne ne les avait jamais ouvertes, quoi. C'est souvent comme ça. On sait qu'il y a des archives, on sait qu'il y a du matériel, donc le matériel, il est là. Que si on a le temps, on ira le voir, et puis on va jamais le voir, quoi. Donc non seulement ça avait jamais été ouvert, mais surtout parce que on ne demandait pas ça à ces gens. On leur demandait pas d'être poète, d'être philosophe, de discuter, de vouloir changer non seulement le monde, mais aussi la pensée. Donc à un moment donné, j'ai décidé de jouer le jeu, qui était effectivement le jeu de fondée sur l'idée que, qui est toute bête, si on l'énonce, tout le monde est d'accord, quoi, mais quand on en tire les conséquences, il n'y a plus grand monde qui est d'accord, à savoir que tout le monde pense.
Voilà, et c'est quand même un ouvrier, non seulement qui pense, mais qui écrit remarquablement bien. Et en qui vous avez cru? Parce que j'avais envie de vous poser une question qui n'est pas dans ce livre, qui est de comparer votre façon de croire... Gony, de croire, oui. À ce parqueteur qui écrit, qui est même capable de passer par des comparaisons avec l'Antiquité, etc. À la manière dont Halévy, découvrant le texte de La vie d'un simple de Guillaumin, n'y croit pas, va voir, va se rendre compte si le gars existe, essaye presque de le tâter, de le toucher, pour voir si c'est possible qu'un simple, qu'un agriculteur pense. Et vous, d'emblée, vous y croyez, vous dites, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, le savoir, les livres sont quelque chose dont la propriété est qu'on peut se les approprier sans intermédiaire. Et c'est peut-être ça ce qui fait la particularité du texte littéraire, voire de, du texte authentique, du texte philosophique, de l'écriture, qu'on peut se l'approprier sans médiation, sans maître. Hein, et du coup, vous pensez le symétrique, c'est-à-dire le maître ignorant, c'est-à-dire, et vous réfléchissez à la manière dont on peut transmettre aussi des choses à partir d'un texte authentique.
Oui, bon, il faut voir, en plus, bon, j'ai, malgré tout, bon, j'ai eu la chance aussi, encore une fois, d'être étudiant dans les années 60, quoi. Il y avait encore, bon, il y avait encore très, très peu de, disons, de, je dirais, de littérature para-universitaire, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans cette situation comme maintenant, où on peut dire que n'importe quel événement, n'importe quel texte, etc., est absolument surchargé de commentaires, de méthodes pour vous apprendre, etc., à lire, etc. Bon, donc, bon, il y avait encore, d'une certaine façon, c'était, de par l'éducation que j'avais, quoi. C'était encore possible, disons, effectivement, d'aborder directement bon, ces textes, donc des textes ouvriers, poèmes, lettres, correspondances, discours philosophiques, etc. Et voilà, et bon, effectivement, de leur faire confiance, de faire confiance avec l'idée justement que. Bon, la vie intellectuelle, c'est d'abord de la rencontre, c'est pas d'abord des méthodes, après ça on cherche des objets pour appliquer les méthodes, et ainsi de suite, non, mais voilà, bon, c'est de la rencontre, tout d'un coup il y a des textes un petit peu qui vous sautent à la figure. Alors bien sûr, on peut toujours douter, bon, et je dirais, d'une certaine façon, il y a toute une logique de, où effectivement, le savant est celui qui doute, quoi, oui, effectivement, on vous dit, ah mais votre ouvrier, c'est pas un vrai ouvrier, c'est
oui,
un artisan,
cas, c'est sans dire que c'est pas un vrai ouvrier, dire que c'est une exception qui ne fait pas sens. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous dire, finalement, il y a là non pas une exception qui ne fait pas sens, mais au contraire quelque chose de profondément intéressant pour réfléchir à la démocratisation et à la finalité de tout savoir authentique, de rencontrer ou d'aller dans le sens de cette démocratisation-là.
Oui, non, mais je pense que c'est une décision, mais d'une certaine façon, je dirais que tout ce qui fait sens est de l'ordre de l'exception, quoi. C'est-à-dire, bon, effectivement, il y a deux démarches par rapport à ce qu'on appelle science sociale. Il y a la démarche qui dit, mais bon, seul est intéressant finalement ce qui couvre un certain échantillon statistique, etc. Bon, et là, effectivement, on me disait, mais ces gens-là, c'est des marginaux, ils sont pas représentatifs, c'est des artisans, c'est ci, c'est ça, tout ce qu'on veut. Mais encore une fois, bon, je pense que, enfin, qu'est-ce qui est intéressant à mon avis, c'est tout d'un coup de rencontrer effectivement une parole qui est exceptionnelle au sens où elle dit pas ce qu'elle devrait dire, quoi. D'une certaine façon, à l'époque, lorsque, bon, si on en revient à ce Fongoni, bon, j'étais allé le voir dans le dictionnaire biographique de Métron, chose remarquable par ailleurs. Bah, on dit que il a écrit des textes intéressants sur les conditions du travail, quoi. Et puis bon, tout d'un coup, je me rends compte que c'est pas du tout des textes intéressants sur les conditions du travail. Que c'est de la pensée, que ce qui est intéressant, c'est précisément le fait que bah, des gens qui sont supposés destinés simplement à travailler et éventuellement à vous laisser les témoignages de leur travail, bah, se mettent à penser ce travail, à le penser un peu heure par heure, et que c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, je crois que, enfin, ce qui est toujours intéressant dans tout domaine, c'est le point en quelque sorte où justement les gens sortent de la norme. Au fond, je pense qu'on pense, à un monde, on pense à une situation, on pense à partir non pas de la régularité dite statistique, où finalement on voit bien que lorsqu'on fait une enquête, on a toujours simplement les réponses qu'on avait déjà préparées, quoi. Donc ça, et bon, ce qui n'a aucun intérêt, quoi. Et bon, je pense qu'il faut effectivement se fier à la rencontre de l'inattendu, et que c'est pas une question statistique, que tout d'un coup il y a des textes qui vous disent tout d'un coup, bah, voilà ce qui se passe lorsque quelqu'un qui en principe est destiné à être bon, à vivre dans le monde du travail, disons de la famille, de la reproduction et comme ça de la vie ordinaire, se met à vouloir être philosophe, poète, etc. Et bon, tout d'un coup, on se rend compte de ce que ça veut dire, que finalement qu'un mode de vie, non pas justement par des espèces de généralités statistiques, mais par les points où ces modes de vie viennent rencontrer un petit peu une autre vie, une autre possibilité, un autre monde.
Voilà, et cette manière de penser la rencontre, vous n'en faites pas simplement quelque chose qui retranscrirait le parcours d'un Goni ou d'un autre. Vous en faites presque un gage d'authenticité pour votre propre méthode à vous, en employant méthode avec une petite charge un peu ironique, puisque justement, dès lors qu'on choisit la rencontre, on n'est pas dans la méthode, puisque chaque fois que vous expliquez les grandes inflexions de votre parcours, c'est sous le signe de la rencontre. Alors, tel livre de Schiller trouvé chez le bouquiniste, ou tel personnage, telle personne qui vous appelle alors que ce n'était pas prévu. Cette rencontre, comment peut-elle être à la fois ce qui caractérise les objets de votre étude et votre propre cheminement? Pourquoi la rencontre et pourquoi la rencontre est-elle nécessaire?
Bon, partons d'abord de cette chose toute bête que, comme on sait, méthode, ça veut d'abord dire chemin, ça veut d'abord dire la route qu'on prend, quoi. Et que, effectivement, ce livre s'appelle La méthode de l'égalité. Bon, je me souviens effectivement d'avoir eu des gens furieux me disent, à qui donc j'étais censé parler sur la méthode de l'égalité. Et bon, à la fin, les gens énervés disant, mais il n'y a aucune méthode, comment est-ce qu'on va se débrouiller, etc. Avec tout ça.
Est-ce que vous avez pensé au texte de Ponge qui plaisantait sur l'idée d'une méthode dans un cheminement
authentique? Non, j'ai pas pensé spécialement à ça, mais le type m'a dit, oui, enfin, vous comprenez, avec cette méthode-là, bon, on ne va pas aller loin, quoi. Bon, effectivement, d'abord, mon idée, bon, c'est en un sens, bon, la méthode, elle est toujours singulière, finalement, elle est toujours une voie qu'on choisit à partir justement des rencontres. Alors, les rencontres, il peut y avoir des rencontres qui sont pas intéressantes, quoi. Il peut y avoir des rencontres qui produisent rien, mais bon, il se trouve qu'il y en a, il y en a qui produisent, et que c'est toujours important, je dirais, d'être provoqué justement parce que quelque chose qui tout d'un coup s'est mis sur votre chemin, quelque chose qui n'était pas programmé, quelque chose qui n'était pas prévu, quoi. Il y a véritablement une espèce de figure absolument horrible de la vie intellectuelle, et qui en plus, bon, je dirais, quelque chose qui est favorisé un petit peu par beaucoup de choses, aussi bien académiques que sociales, quoi. Bon, c'est effectivement la personne qui disons définit sa méthode, et puis après ça, bon, on va appliquer sa méthode toute sa vie à différents objets, quoi. Et je pense que par rapport à ça, effectivement, il y a effectivement des choses qui vous tombent dessus. Il y a ces archives ouvrières qui me sont tombées dessus à un moment. Il y a un moment comme ça où effectivement tel ou tel livre, comme ces lettres sur l'éducation esthétique de Schiller, dont j'ai fait pas mal usage, mais effectivement c'est tombé sur moi chez un bouquiniste. J'ai beaucoup travaillé par une espèce de fréquentation effectivement des bibliothèques, où tout d'un coup, là, vous ouvrez quelque chose qui n'était pas ce que vous cherchiez. Je crois que, bon, au fond, là, le problème, je pense, pour ce qui est du travail dit intellectuel, c'est toujours au fond d'avoir à faire quelque chose qui vous résiste, quoi. C'est toujours qui résiste parce que c'est quelque chose qui vous provoque. Bon, il y a cette phrase célèbre de Deleuze, là, enfin, cette formule célèbre de Deleuze sur ce qui vous force à penser, quoi. Alors bon, effectivement, il y a, à partir de là, il y a, bon, les rencontres peuvent être productives ou pas productives. Quelquefois ça se casse la figure, on cherche désespérément. Bon, j'ai travaillé pendant assez longtemps sur l'écriture, comme ça. Bon, j'ai travaillé pas mal sur les pères de l'Église, les pères du désert, etc. Bon, alors, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire exactement des pères du désert pour penser la littérature du 19e siècle? Bon, finalement, je n'en ai peut-être pas utilisé grand-chose, sauf un certain nombre de questions sur, bon, qu'est-ce que c'est que le verbe qui se fait chair, qu'est-ce que c'est que cette prétention du mot à s'incarner, qu'est-ce que c'est que les... comme la littérature, comme une espèce justement de rencontre toujours manquée avec des mots qui essayent de devenir de la chair, de devenir du corps, et qui évidemment... Bon, on n'y arrive jamais. Je crois que ce qui est important, c'est que bon, les choses vous servent toujours indirectement, jamais directement, jamais justement comme objet que vous allez pouvoir en quelque sorte ranger un petit peu dans les cases de votre système, mais toujours par un système par des déviations, puis par des choses qui peut-être vous seront utiles 5 ans après, 10 ans après. Voilà, bon, je pense qu'il faut, on essaye des voies, pendant très longtemps elles marchent pas, quelquefois ça marche jamais, et puis, mais en même temps, bon, je crois que l'important c'est aussi de créer en quelque sorte une dynamique où on soit toujours à la recherche de quelque chose qui puisse vous faire bouger, quoi.
Voilà, donc j'en reviens à ce qui me semble vous faire bouger. Ce qui m'intrigue, moi, c'est que quand vous étudiez la culture ouvrière, ou quand vous étudiez Jacques Otto, que vous posez, en d'autres termes, la question d'un savoir, enfin, d'une culture qui aurait deux sens, c'est-à-dire qui à la fois serait l'appropriation d'un savoir, et en même temps interroger ou renverrer à l'idée d'une culture populaire ou de sa propre culture. On a ce domaine d'interrogation. Vous posez la même question, ou vous étudiez les mêmes figures chez un Jacques Otto ou un Goni que chez un Balzac, quand vous regardez la manière dont l'écrivain pense problématique du texte littéraire qui est à la fois lui-même et totalement, totalement peut-être le lieu où il se perd, où il risque de se perdre. Alors, est-ce que c'est un hasard que finalement, chez les écrivains reconnus, on ait la même, le même questionnement, ou la même tension, ou la même dialectique que chez un ouvrier ou un instituteur?
Bon, mais il faut voir. Bon, faut voir aussi que bon, ça dépend évidemment des, ça dépend évidemment des contextes.
Mais est-ce que le danger ou la séduction du livre, et que le livre est à la fois le lieu où on peut se trouver, se déplacer, oui, ou s'émanciper. En même temps, le lieu s'émancipant, on risque de perdre, de se perdre quand même.
Oui, bon, moi j'ai toujours été effectivement bon fasciné un petit peu au départ par ces récits, bon par ces récits effectivement, les récits d'autodidactes. On sait que les, ces récits d'autodidactes qui sont toujours un petit peu bon, un petit peu les mêmes, quoi, un petit peu les mêmes, à savoir que voilà, on a trouvé un livre sans couverture, quelques feuilles de papier, tout d'un coup, il y a eu comme ça, on est entré dans un autre univers. Alors en même temps, bon, c'est quelque chose, vous dire que bon, j'en avais une fois la généalogie, ça remonte jusqu'à l'Antiquité, puisqu'il y a des gens qui avaient prétendu à une époque, effectivement, avoir trouvé les vrais récits de la guerre de Troie qui auraient été cachés comme ça dans une grotte, etc. Donc, évidemment, Homère, l'écrivain, était réfuté par les vrais récits de la guerre de Troie écrits par des vrais combattants. Bon, il y a toujours ça, justement, en quelque sorte, cette espèce de rapport entre le bout de papier.
Ce que vous avez appelé la guerre des écritures chez un Balzac,
oui,
on retrouve quelque chose qui n'a pas le même nom. Ouais. Mais qui est quand même d'une tension propre.
Oui, non, mais il y a des choses, bon, effectivement, qui sont complètement incroyables. Bon, j'étais, une des choses qui m'ont déterminé. Enfin, bon, c'est toujours difficile de savoir ce qui vous détermine, mais à une époque, à me centrer davantage sur la littérature, c'était bon ce livre absolument invraisemblable là de Balzac, bon, le curé de village, où effectivement, où tout est construit autour d'une petite fille de ferrailleur, etc. Tout d'un coup découvre un livre qui a découvert comme ça un Paul et Virginie à l'étalage d'un marchand, etc. Puis bon, ça change
sa vie. Ça aurait pu être un Schiller.
Mais toujours est-il que c'est un Paul et Virginie. Elle l'achète parce qu'il y a une jolie image de ses parents, comme c'est une gentille petite fille, ses parents lui offrent. Et puis évidemment, après ça, bon, elle commence à se rêver en Virginie, à rêver son Paul. Elle trouve son Paul dans un ouvrier de la fabrique. C'est à Limoges, donc c'est les porcelaines, évidemment. Et puis bon, ça va tellement. Puis entre-temps, le ferrailleur, ayant gagné de l'argent avec les biens nationaux, en fait, se trouve pouvoir marier sa fille à un riche. Et bon, elle marie sa fille à un riche, c'est très bien, mais la fille, disons, est amoureuse du ferrailleur. Bon, la chose résulte en un crime, etc. Et il y a donc cette espèce de crime, absolument, ce crime qui est produit effectivement par le fait qu'il y a des livres qui circulent. Et par rapport à ça, il y a le remède qui apparaît à la fin du livre, à savoir que Véronique et dans son village, et que le curé lui apprend à se rendre utile, à faire que sa fortune soit utile à la société, en faisant en créant des canaux d'irrigation, etc. Donc il y a une espèce de modèle qui est à l'époque, à savoir les livres c'est dangereux, le papier c'est dangereux, mais la vraie écriture c'est de faire des liens entre les hommes, vous faites des canaux, vous faites des chemins de fer, c'est l'époque des Saint-Simoniens. Il y a donc cette espèce de folie qui en même temps est une folie pour un écrivain. Bon, c'est-à-dire que si l'écrivain dit mais l'écriture c'est dangereux, ce qui est bien, c'est les chemins de fer, ça c'est un vrai lien entre les hommes, vous êtes là,
mais sans
vous êtes
dire là. Dangereux, c'est quand même une question que vous posez vous pensez dans les archives ouvrières, de savoir que ces gens qui tentent de s'émanciper par la culture et qui s'interrogent en même temps sur leur propre culture sont dans un lieu quand même pas dangereux, le terme ne serait pas approprié, mais enfin, qui pose la question de leur identité.
Oui, mais absolument, absolument. Mais en plus, c'est un thème qui est complètement récurrent dans toute l'histoire 18e, 19e, le thème du déclassement, à savoir qu'effectivement, les gens à qui le livre n'est pas destiné, qui tombent sur le livre, qui tombent sur le papier, qui tombent sur l'écriture, sont en danger, quoi. Et bon, il y a des grandes affaires à l'époque, un ouvrier qui a écrit une brochure, qui n'a pas eu de succès, qui se suicide, énorme polémique, etc., dans les années 1840, sur l'énorme danger pour les ouvriers de se mettre tout d'un coup à vouloir écrire, faire des poèmes, faire des brochures, voilà. Bon, mais c'est quelque chose d'intéressant parce que aussi ça a son répondant du côté des écrivains. Les écrivains qui ont toujours en même temps eux-mêmes d'un autre côté cette espèce de mythe du livre qui serait plus un livre écrit en quelque sorte sur du papier, quoi. Mais ça c'est un thème qui traverse toute l'époque romantique, le 19e siècle. Vous avez encore ça chez Mallarmé, le thème du livre, enfin, le livre qui serait plus qu'un livre, quoi. Et bon, je crois que c'est ce qui est intéressant, c'est un petit peu la La, la, la tension de tout ça, quoi, savoir bon effectivement qu'est-ce qui se passe quand de l'écriture devient corps, quand on consacre sa vie à
essayer. C'est quand même ce que vous nous avez dit et heureusement dit, que le livre était plus qu'un livre. Quand même, vous avez été le philosophe qui a permis aux spécialistes de littérature de se dire que ce qu'ils faisaient, c'était autre chose que la littérature. Aux historiens de se dire que ce qu'ils faisaient, c'était peut-être autre chose que simplement de l'histoire. Vous avez été la martingale entre toutes nos disciplines, en nous disant que l'écriture était le lieu où tout s'élaborait et que le livre était plus que le livre.
Oui, enfin bon, il y a deux choses. La première chose, effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de sortir un petit peu de la clôture entre les disciplines où on vous dit, attention, vous êtes historien, la méthode de l'historien, sociologue, la méthode du sociologue, philosophe, la méthode du philosophe, littéraire, la méthode de la théorie littéraire, des choses comme ça. Où effectivement, moi, j'ai dit, mais disons, partout là, qu'est-ce qu'on a? On a de l'écriture. On a de l'écriture, on a de la pensée qui s'écrit, et bon, et vous avez beau
vous
prétendre.
Vous avez même dit plus, vous avez dit que tout se jouait dans l'écriture.
Ça, c'est une chose. Et puis que deuxièmement, effectivement, bon, on sait qu'il y a toute une tradition qui est avec les mots, ah oui, mais ce n'est que des mots, mais il y a la réalité, mais c'est pas vrai, quoi, c'est pas vrai, parce que d'une certaine façon, bon, les vies sont toujours plus ou moins gagées sur des mots auxquels on essaye de donner simplement du sens, et malgré tous les discours qui continuellement consistent à vous dire pas de mots maintenant la réalité, bon, bah, je dirais que tous les discours d'irréalistes sont eux-mêmes complètement tissé de mots, finalement, tout ce qu'on appelle réalité, et toujours, qu'on le veuille ou non, un certain arrangement entre des mots, et effectivement, avec un choix qui engage des vies, quoi.
Voilà. Donc, moi, je voulais vous interroger sur cette figure du pauvre, parce que, finalement, ce qui, au départ, dans La Nuit des Prolétaires, s'appelle un ouvrier, petit à petit, il y a le philosophe et ses pauvres, change de visage, le terme de pauvre étant un terme à la fois plus large, mais en même temps qui permet... De dévaler, oui. Selon votre terme. Et ce qui m'a frappé en vous lisant, et précisément en lisant celui-là, La méthode de l'égalité, c'est que nous, lecteurs, quand nous vous lisons, alors on commence et on vous lit au départ avec ce qu'on est ou ce qu'on croit être. Et on se dit, bon, non, je ne suis pas... je ne suis pas tous ceux à quoi vous tendez un miroir un peu difficile à supporter. Donc, on ne vous lit pas avec en étant un intellectuel de gauche, parce qu'on a bien compris que les intellectuels de gauche, que ce soit les Foucauldiens, une vision un peu trop simpliste qui serait passée à côté de la multiplicité des possibles. Et on y adhère en vous lisant, même quand on authentiquement on pratique Foucault et qu'on l'admire. Et puis qu'en étant althusserien, eh bien on est on a recomposé une hiérarchie là où on voulait faire de l'émancipation, et puis etc., etc. Et ce qui me saute aux yeux, à la fin du coup, on vous lit, on se dit, à quoi s'identifie-t-on finalement au pauvre? Est-ce que ce pauvre qui au départ était historiquement, socialement bien constitué, l'ouvrier, qui finit par être le visage de tout lecteur qui vous lit, finalement a encore un sens? Est-ce que c'est cela, cette position face au savoir, que nous sommes tous des pauvres? Et est-ce que finalement, dans cette position-là, vous vous retrouvez ou pas?
Non, mais j'ai pas du tout une position, disons, misérabiliste. C'est-à-dire,
c'est pas ça que je dis.
Non, mais je veux dire, faut bien voir la notion de pauvre. Enfin bon.
Ceux qui ne savent pas, absolument, oui. Ceux qui sont. Oui. Alors, le pauvre étant entendu que ce n'est pas celui qui est dans la nuit, oui. Puisque vous avez largement montré que ceux qui décrivaient le pauvre ou l'ouvrier dans la nuit étaient des gens qui recréaient du privilège, le privilège de celui qui peut dévoiler, le privilège de celui qui peut comprendre, et qui donc recréaient la hiérarchie là où vous vouliez au contraire émanciper. Mais à déployer cette figure-là, finalement, c'est une figure dans laquelle nous nous reconnaissons tous. Est-ce qu'il n'y a finalement de moyens de vous lire qu'en se reconnaissant dans ces figures-là?
Disons, se reconnaissant, oui, dans la figure de celui qui n'est pas légitimé, ou du moins qui n'est pas ni plus ni moins légitimé qu'un autre à parler. Mais effectivement, je dirais que d'une certaine façon, bon, le philosophe est pauvre, donc ça part autour, malgré tout, cette espèce de division platonicienne, finalement, entre le philosophe et le cordonnier, entre celui, finalement, qui est là pour faire sa propre affaire, qui est de faire des chaussures, et puis celui qui est là pour penser et pour donner à la cité sa loi, quoi. Je dirais, bon, j'essayais de montrer un petit peu la généralité de cette figure, donc c'est pas une question enfin, où c'est pas une question sociale, c'est une question sociale au sens où c'est pas une question sociale.
Il y a des questions sociales qui se posent encore.
La question sociale, c'est pas seulement la question de savoir combien vous gagnez, c'est-à-dire ou quel type de travail vous faites, mais finalement quelle place vous est donnée, quelle capacité vous est reconnue, quoi. Et c'est vrai que bon, plus on a un système de quelque sorte de division des savoirs, de spécialisation, et plus d'une certaine façon on est quelque chose comme le pauvre ou comme l'exclu de tous les autres. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être, disons, effectivement, misérable. Donc, je crois qu'il y a vraiment deux questions. Il y a la question de l'exclusion générale, et puis il y a la question que, effectivement, le système même des savoirs font que de plus en plus, vous allez être, de toute façon, celui qui est incompétent, quoi. Moi, je me suis aussi frappé parce que j'ai vécu aussi une époque, une tranche d'une quarantaine d'années ou cinquantaine d'années, pendant lequel des choses, bon, qui finalement n'appartenaient pas au monde du savoir académique, bon, maintenant, y appartiennent, quoi. C'est-à-dire que des choses qui étaient affaires, bon, finalement, de vie, de goût, de tout ce qu'on veut, etc., bon, sont devenues des matières académiques. Et dès que quelque chose devient une matière académique, bon, finalement, que ce soit le la littérature, le cinéma, etc., ça veut dire qu'automatiquement, en quelque sorte, ça crée, en quelque sorte, comme une sorte de frontière, au sens, bah, ah, mais oui, vous n'êtes pas partie de cette discipline-là, vous n'avez pas la méthode de la discipline, vous êtes comme exclu. Et je dirais, et c'est ça que je trouve qui est tout à fait fascinant, c'est la façon de justement, la déclaration d'incompétence se déclare en quelque sorte un peu partout, quoi. Et en même temps, c'est intéressant de la reprendre en quelque sorte, c'est-à-dire de partir du fait que oui, après tout, bon, bah, je lis des livres ou je dépouille des archives ouvrières. Bon, quand je dépouille les archives ouvrières, bon, après ça, bon, je suis passé devant un jury de thèse devant un historien qui m'a dit, vous êtes parti sans filet. Bon, et partir sans filet, c'était pas vraiment un compliment, quoi, etc. Bon, et bon, en disant, bon, on dira aux gens de vous lire, mais surtout pas de vous imiter, quoi. Voilà, bon, et un peu dans chaque, voilà, il y a cette espèce d'aspect en quelque sorte où on est, oui, justement, bon, il faut partir sans filet, décider que après tout aussi, y compris quand vous êtes supposé être un universitaire, décider que vous n'êtes pas nécessaire, disons que vous pouvez en même temps, bon, ben, pas simplement enseigner, disons, l'histoire de la philosophie, mais vous intéresser à un certain nombre de choses qui en principe sont pas votre territoire, sont le territoire des autres, et que vous avez une espèce de, oui, une compétence, bon, une compétence égale, quoi. Je pense que c'est ça qui est important. Bon, tout à l'heure, on était donc avec vos élèves de Cagnes, quoi. Bon, vous leur avez dit, bon, ben, vous prenez Rancière, vous prenez les textes du programme et vous débrouillez avec ça, quoi. Ben, effectivement, ils sont partis avec ça, c'est-à-dire qu'ils se sont, ben, effectivement, disons, décernés. Bon, ils se sont décerner une compétence de l'incompétence, si on peut dire, quoi. Et bon, ça, je crois que c'est effectivement très bien. Et là, donc, la figure du pauvre, effectivement, elle a un aspect, qu'on pourrait dire, social immédiat, mais on la retrouve en quelque sorte un peu partout. C'est-à-dire, le pauvre, c'est simplement n'importe qui, quoi.
Est-ce qu'on risque pas de manquer la question sociale et la réalité des aliénations contemporaines à se connaître comme ça? Parce que moi, il y a une impression persistante que j'ai à vous lire. Et vous savez à quel point je vous apprécie, non, ce n'est pas négatif. Persistante et en même temps totalement désappropriée. C'est que quand je lis Rancière, livre après livre, quel que soit le sujet, et avec cette méthode du détail, de la micro-lecture, du pauvre, etc., je me dis, bon sang, ce gars est un franciscain, quoi. On est là dans une espèce de logique de voilà, où on se replace dans le camp ou le point de vue de ceux qui au départ ne sont pas vous-même, ne sont pas moi tout de même.
Oui, non, mais je pense que bon. Bon, fondamentalement, moi, ce que je pense dans ce qu'on peut appeler la question sociale, quoi, pour moi, c'est d'abord effectivement une question de quoi on croit les gens capables, quoi, etc. Et bon, si on voit bien malgré tout à travers tout ce qu'on appelle conflits sociaux, tout ce qu'on a vu se développer un petit peu, disons, depuis les années 90, un peu avec disons toutes les formes d'attaques contre la sécurité sociale, les acquis sociaux, les garanties au travail, on voit bien que ce qui est en jeu à chaque fois, c'est pas simplement tel ou tel effectivement avantage acquis qu'on essaye de rogner, mais c'est aussi l'idée que après tout ces gens-là sont aussi capables par eux-mêmes, disons, de penser un petit peu les affaires de la communauté, de penser l'avenir. Il y a eu cette espèce de moment un petit peu, bon voilà, c'est, si on pense en termes de mouvement social, question sociale, ce moment un petit peu des grèves de 95, tout d'un coup il est apparu, bon, clairement que bah, ces gens-là, c'est pas simplement le fait que bon, il fallait qu'ils travaillent plus, qu'ils se retirent plus tard, etc., qu'ils acceptent ça, mais que fondamentalement, il apparaissait que la chose sociale était devenue tellement compliquée qu'on pouvait plus leur faire confiance, Et je crois que dans toutes ces, un peu partout, il y a ça, quoi. Il y a l'idée que et je crois qu'en même temps, tout au long de ce qu'on appelle bon conflit social aussi, il y a eu ça, quoi. C'est-à-dire, il y a eu bien sûr des questions de conditions de vie, des questions de salaire, des questions de toute une série de conditions matérielles, mais toujours aussi en même temps imbriqué avec ça l'idée où finalement est-ce qu'on pense que au fond n'importe qui est capable un petit peu de penser un petit peu sa condition,
sa condition, c'est-à-dire à condition de rencontrer des textes et des œuvres selon vous, parce que je trouve ça intéressant de voir comment d'un côté vous congédiez définitivement toutes les métaphores visuelles de la nuit, etc., qui vous déplaisent, et vous avez assez expliqué pourquoi, pour au contraire faire de l'image, de la visibilité, le lieu de l'émancipation, et que face à un discours qui serait celui de la société contemporaine sur l'image dans laquelle on se perdrait, au contraire vous avez montré à quel point, soit à travers le cinéma, à travers les études de photographie, les études de tableaux, à quel point l'image était le lieu d'une vraie, non pas de la nuit, hein, mais au contraire d'une vraie lisibilité, d'une émancipation. C'est le spectateur émancipé. Alors est-ce qu'on peut émanciper sans passer par cette rencontre-là, ce lieu de rencontre qui serait l'œuvre, le texte ou l'image ?
Disons que bon, l'émancipation passe toujours par une rencontre avec quelque chose bon qu'effectivement qui au départ vous n'étiez pas destiné ou à quoi on n'était pas destiné, et c'est vrai aussi bien quel que soit votre statut social, quel que soit votre point de départ, et la chose en question, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des images, ça peut être des faits simplement sur lesquels tout d'un coup vous vous mettez un petit peu à réfléchir. Je veux dire qu'il y a toujours, dans l'idée d'émancipation, il n'y a pas nécessairement le fait que tout d'un coup il y a le savoir qui vous arrive ou effectivement là encore, si on peut dire, c'est une affaire de rencontre. Mais au fond, ce que j'ai essayé un petit peu de faire, c'est de contrarier cette espèce d'idée un peu reçue, à savoir oui, les gens vivent complètement abrutis, abêtés dans un monde d'images. Et c'est pour ça que vous avez fait allusion un petit peu. On travaille sur les images, spectateurs émancipés. Oui, j'ai essayé un petit peu de secouer cette espèce d'opinion reçue, à savoir.
Donc chaque fois que quelque chose vous dit, il y a des abrutis ou des déclassés, etc. Chaque fois, vous réagissez pour déplacer cela. Alors, les abrutis existent-ils, Jacques Rancière ?
Oui, les abrutis existent, bien sûr. Les abrutis, c'est ceux qui pensent qu'ils en savent plus que les autres. Je crois fondamentalement. J'avais écrit ce livre, le Maître ignorant, à partir de cette découverte de ces textes incroyables de Joseph Jacotot, qui élaborait justement toute une espèce de l'égalité ou de l'inégalité, où il montrait bien finalement que, ce qui entretient l'inégalité, c'est la croyance en l'inégalité, et qu'au fond, on devient bête en se croyant plus intelligent que les autres. Et ça, je veux dire qu'on se croit bête.
Donc Jacotot, c'est ce personnage qui enseigne le français sans le connaître à partir...
Il enseigne le hollandais sans le connaître, le français il le connaissait.
Le hollandais,
évidemment.
Sans le connaître à partir d'un juxtalinéaire de l'abbé Oblinger, hein, qui est les aventures de Télémaque, traduit, comme dit la notice, selon le génie de la langue française et le génie de la langue hollandaise, ligne à ligne. Donc sans le connaître, en le faisant lire et apprendre à ses étudiants, et qui réfléchit à cette manière d'amener une vraie connaissance, hein, des gens qui, effectivement...
Non, mais c'est-à-dire que bon, ce qui a bon, alors bon, le, disons là, ce qui est au cœur de cette affaire de Jacotot, effectivement, c'est quelque chose comme une réhabilitation de la rencontre par rapport à ce qui est censé être le bon ordre de la distribution et de la progression des connaissances. C'est-à-dire bon, c'est finalement c'est quelque chose qu'on pourrait appeler comme font l'anarchie du savoir, l'idée qu'il y a une multitude finalement de manières d'entrer traite dans le savoir ou dans du savoir, et que bon, malgré tout, l'important je dirais, en un sens, s'il y a une bonne méthode, c'est la méthode qui vous donne la confiance dans votre propre capacité et dans les résultats de votre propre capacité. Donc il y a effectivement cette espèce de critique, enfin bon, effectivement, quelque chose quand même qui m'a un peu ébahi, quoi. C'est-à-dire bon, il faut quand je suis tombé donc sur ces textes écrit dans les années 1820-1830, donc par ce personnage complètement invraisemblable, donc de Joseph Jacotot. Alors bon, peu importe de savoir vraiment qu'est-ce que les gens ont appris comme français, enfin, ces étudiants hollandais, c'est pas bon. Ce qui est intéressant, c'est effectivement tout ce qu'il élabore au fond, autour de ça, c'est une espèce de critique un peu radicale de la méthode, justement, qui veut aller en bon ordre, progressivement remplacer l'ignorance par le savoir. Et tout d'un coup, il dit, mais toute cette méthode, disons, qu'on nous vend, qui est devenu comme une espèce de modèle social, à savoir le progrès, bon, ça n'est qu'une manière de mettre continuellement, l'enfant, l'ignorant, le peuple, enfin, disons, dans une situation effectivement, d'assujetti. Bon, on sait que c'est vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on est toujours dans le système hiérarchique, autoritaire, on est toujours un petit peu, effectivement, l'ignorant de quelqu'un, quoi, même, y compris l'ignorant de votre directeur de thèse, quoi. Bon, effectivement, par rapport à ça, il lance cette espèce d'idée de l'émancipation intellectuelle, en disant, mais bon, à cette époque, évidemment, cette idée complètement folle, il n'y a pas à instruire le peuple, il y a à lui dire qu'il peut s'émanciper. Et bon, c'est-à-dire que, bon, au fond, d'une certaine façon, décider d'une capacité qui est une capacité qui appartient à tout le monde. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important aussi, et effectivement aussi du côté de la position du maître, c'est-à-dire qu'est-ce que montre Jacotot. C'est tout d'un coup, il défait cette espèce d'ambiguïté qu'il y a dans le terme d'apprendre, l'idée, voilà, le professeur apprend, l'élève apprend, et puis hop, ça veut dire que ça se transmet, et puis... Bon, qu'est-ce qu'il montre ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non, ça, rien ne se transmet. La connaissance passe pas d'un côté à l'autre. Il y a comme deux aventures intellectuelles qui vont se rencontrer. Quoi.
Une dernière chose, alors, Jacques Rancière. Donc, ce livre qui vous dit qu'il faut s'émanciper. Évidemment, il me semble que le premier livre qui vous a dit qu'il fallait s'émanciper, puisque tout vient de là, et finalement, en lisant La méthode de l'égalité. C'est peut-être le lieu de la vraie rencontre, mais aussi de tout l'équiproquo. Cette lecture du Capital dont vous faites le début et la fin de La méthode de l'égalité, cette lecture du Capital dans laquelle votre approche des choses, y compris iconoclaste, y compris à résister contre les images qu'on vous proposait, s'est jouée, et où peut-être vous lisez aussi la mauvaise façon de rencontrer le texte, puisque... Au fur et à mesure, toutes les 30 pages dans La méthode de l'égalité, il y a ceux qui ont mal lu Marx, ou ceux qui, parce qu'ils ont traduit le Capital, ont besoin de démontrer en permanence qu'ils ont traduit le Capital. Il y a des baudrillards qui ont besoin de faire jouer une structure dialectique là où elle ne joue pas, etc. etc. Ce texte-là a-t-il été un texte émancipateur pour vous ? Est-il encore un texte émancipateur ? Y a-t-il lieu aujourd'hui de lire le Capital? Est-ce un texte fondateur ou non? Est-ce que le texte qui réfléchit à l'émancipation est encore un lieu d'émancipation particulière par rapport à d'autres?
Bon, disons d'abord que moi, je suis pas rentré dans Marx par le Capital. Bon, je suis rentré par... dans la lecture de Marx. Je suis pas entré dans la lecture de Marx par le Capital, mais bon, plutôt par des textes du genre la critique de la philosophie du droit de Hegel, la question juive, un petit peu tous ces textes, en quelque sorte, qui justement étaient comme une espèce d'appel. Bon, il y a ces formules un peu célèbres sur la philosophie qui doit devenir monde, sortir d'elle-même, et ainsi de suite. Je veux dire que bon, si je suis rentré d'abord dans Marx, c'est par ses œuvres un petit peu, disons, programmatiques, quoi. Après ça, bon, disons, on m'a dit, mais comme il y avait ce séminaire sur le Capital, qu'il fallait que j'avais beaucoup travaillé sur le jeune Marx, qu'il fallait montrer qu'il y avait une coupure entre le jeune et le vieux, donc j'ai été recruté comme spécialiste du jeune.
Et quoi. Vous n'avez pas voulu montrer qu'il y avait une coupure entre le...
Voilà. Si, à l'époque, j'ai montré qu'il y avait une coupure entre le jeune et le vieux, parce que c'était comme ça, un enjeu, il fallait le montrer à l'époque, mais je veux dire que, bon, en même temps, c'était pour moi un objet de réflexion permanent, le fait que, on avait 23, 24, 25 ans, quoi, et on nous disait, attention, le Capital a été écrit il y a quand même une centaine d'années, personne n'a encore jamais compris, nous on va le comprendre et vous allez le comprendre. Moi j'avais jamais lu le Capital, et il fallait, ça s'est décidé en juin, il fallait qu'à la fin de l'année je puisse dire ce qu'était la vérité du Capital. Alors c'était une expérience qui m'était utile, je dirais plutôt négativement.
C'est pas juste une expérience assez longtemps, c'est-à-dire que moi, la question que je voudrais vous poser, c'est comment quelqu'un qui a fait de toute sa vie la réflexion, enfin, de toute sa pensée, le lieu de l'émancipation, qui n'a défini de dignité à la pensée que celle d'émanciper, quelle est sa dette par rapport à ce texte fondateur, et est-ce qu'il y a encore une façon, aujourd'hui, importante, qui a une exigence de retourner à ce texte-là, c'est-à-dire... Oui, de penser qu'effectivement, il y a des structures qui empêchent l'émancipation. Est-ce que reconnaître à toute forme d'art ou d'art authentique le rôle émancipateur, c'est pas aussi passer à côté de la question spécifique que pose ce texte-là et de son...
Non, mais le problème d'un texte, je dirais, c'est l'usage qu'on en fait, quoi. Bon, je dirais à l'époque, malgré tout,
le lien qui s'est fait entre l'intellectuel et le marxisme, il est quand même, c'est quand même pas que du pipeau, quelque chose s'est joué.
Mais il ne s'agit pas de dire que c'est du pipeau, c'est pas du pipeau. Il s'agit de voir en même temps, effectivement, qu'est-ce qu'on fait, comment on traite ce rapport, quoi. Il y a un moment donné, effectivement, où d'une certaine façon, j'avais parti d'un groupe de jeunes gens supposés bien doués, quoi, à qui on disait il faut que vous formuliez, etc., la science, la philosophie, la pensée qui est dans le Capital pour tout le monde. Et tant que vous ne l'aurez pas formulé, vous, jeune homme, eh bien évidemment, la révolution mondiale ira mal, quoi, ou à peu près, quoi. Et à partir de là, je dirais que, il y a toute une série de lectures. Ça invalide pas le livre, mais je pense que, aussi, ce qu'on apprend quand même, c'est que, aussi, à la fois un livre, la parole, ça engage de la vie, et qu'en même temps, un livre n'est jamais qu'un livre, c'est-à-dire qu'il ne se tire aucune conséquence. C'est-à-dire, vous pouvez avoir lu 40 fois le Capital, vous ne saurez pas à la sortie comment faire la révolution.
Non, pas comment, mais est-ce que cette émancipation, elle, telle que vous la pensez, elle peut faire l'impasse sur...
Non, mais je veux dire qu'il faut prendre la chose dans les deux sens.
Sur ces conditions économiques-là, ou est-ce que...
Non, mais l'émancipation ne fait pas impasse sur les conditions de l'exploitation.
Est-ce que c'est un moment daté, ou ça revient très souvent dans votre propos, ce moment du Capital. Est-ce que c'est un moment daté, une mode, ou pas? Ou est-ce que c'est beaucoup plus profond que ça? Est-ce que ce qui reste quand vous décrivez, à travers une œuvre immense, les moments où les différentes choses travaillent l'une dans l'autre, est-ce que tout cela a à voir avec, au fond... dialectique. Est-ce que le Capital est juste un élément de votre vie, c'est un fil conducteur?
Je pense pas qu'en soi-même, je pense pas qu'en soi-même ce soit un fil conducteur en soi-même. Je veux dire, à un moment donné, d'une certaine façon, c'est un livre qui a joué justement cette espèce de rôle complètement ambigu, parce qu'il y a deux choses. D'une part, vous pouvez dire, on peut pas penser l'émancipation si on pense pas les conditions économiques, l'exploitation, etc. C'est parfait, c'est vrai. En même temps, je dirais que le Capital, la logique du Capital, la théorie, etc. C'est des choses, finalement, dont on peut être, je dirais que dont on sait très bien que des gens ont fait comme une espèce de commerce, au sens de qu'on peut vous exploiter, on peut vous expliquer comment effectivement l'exploitation marchera toujours, comment vous serez toujours récupéré, comment tout sera, etc., intégré, et ainsi de suite. Donc, je veux dire qu'il y a, la question, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement par rapport à des livres qui effectivement sont quelque chose comme le livre qui veut vous dire quel est le cœur, en quelque sorte, le cœur solide de l'exploitation, de la domination. Je pense que c'est quelque chose qui est important, mais ce que j'ai essayé de dire, c'est que la domination, elle avait aussi d'autres voies, d'une certaine façon, et que lorsque vous dites il faut que vous connaissiez ça pour vous émanciper, en même temps on introduit une espèce de préalable, à savoir que il y a seuls ceux qui savent, qui peuvent vous émanciper, et ainsi de suite. Donc je veux dire que il n'y a pas de solution.
Plutôt le lien d'une génération et Oui.
Ben, génération, il y a, je dirais, il y a un tas de choses qui ont joué dans cette génération-là. Bon, il y a l'époque, bon, il y avait tout ce qui se jouait à l'époque, la décolonisation, la révolution culturelle, le tiers-monde, le 68, l'après 68, le structuralisme, bon, la révolution des œillets au Portugal, que sais-je, une multitude de choses. Bon, je dirais, voilà, il n'y a pas, disons, quelque chose comme une espèce de cœur solide, mais il y a une multitude de choses qui font partie d'une expérience, effectivement, de sensibilité, je dirais, bon, effectivement, aux questions de l'exploitation, de la domination, etc., et de l'idée que, bon, le travail philosophique, le travail dit scientifique, en même temps, est toujours un travail qui prend position sur des questions de domination, de résistance, d'égalité, d'inégalité. Bon, voilà ce qu'on peut dire.
Voilà. Écoutez, merci Jacques Rancière.
Merci à vous.